Je vais vous faire une confession. Le message que je vais apporter ce matin, je l'ai déjà donné dans l'église ici il y a 3 ans et demi. C'était en été. Je pense que la plupart n'étaient pas présents. Donc j'ai un peu moins de scrupules du coup de le redonner aujourd'hui. Je n'étais pas prêt pour autre chose. Donc du coup j'ai préféré partir sur cette option-là. Et ça me semblait aussi... Ouais, avec les circonstances d'hier et globalement une bonne chose à apporter à l'église ici à Cavaillon. Le titre de mon message, c'est le portrait d'un bon ami selon les proverbes. Et on commence avec un petit quiz. Est-ce que l'amitié, c'est dans la Bible? Ouais, ok. Est-ce qu'il est possible d'être ami avec Dieu? Qui dans la Bible expressément a été mentionné comme étant ami de Dieu dans l'Ancien Testament? Abraham et Moïse. Ils pouvaient parler face à face avec Dieu et ils ne mouraient pas. Parce que Dieu les aimait, Dieu les acceptait dans son amitié, dans sa présence, et ils pouvaient communiquer avec Dieu même. Donc Dieu est capable d'être un ami et Dieu a quelque chose à dire sur l'amitié. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a des personnes qui sont expressément mentionnées comme amis de Dieu? Tu vois Daniel qui fait... Jean, l'apôtre Jean, le bien-aimé, le disciple bien-aimé. J'ai pas très bien... Lazare, ouais. C'était l'ami de Jésus et il a pleuré au moment de sa mort. Paul... Alors... Je pense pas à une référence particulière. Tu penses à une référence particulière? Ok, donc il a pu voir Jésus dans ce sens-là. Tu dis, voilà, Dieu a eu de l'amour pour lui. Ouais, il a eu compassion de lui. Jésus dit à ses disciples, vous rappelez, on a vu ça dans l'évangile de Jean dernièrement, ceux qui étaient dans l'église ces derniers mois. Je vous appelle plus serviteurs, parce que vous êtes plus simplement des serviteurs. Je vous ai révélé tout ce qui est important, et maintenant vous êtes mes amis. Donc tout disciple de Christ peut être ami de Dieu par Jésus. Incroyable. Alors, on veut pas simplement être ami. Si on peut être ami de Dieu, on peut aussi vivre cette amitié entre nous, à l'intérieur de l'Église en particulier. Et je vais arrêter mon quiz ici. Je ne sais pas quel crédit vous me donnez pour parler de l'amitié. Moi aussi, j'ai besoin de revenir à Dieu pour comprendre qu'est-ce que c'est l'amitié, pour pouvoir mieux la vivre et l'expérimenter avec vous, ici dans la communauté. Peut-être c'est votre cas aussi ce matin. Alors, si vous voulez apprendre un peu plus avec moi ce que c'est l'amitié, je vous invite à tourner vos regards vers la Bible. On va se laisser enseigner par elle. On a besoin que notre compréhension du monde, notre foi, et quand on est en train de lire dans les proverbes, on est en train de lire la foi mise en action. On parle d'un sujet bien concret ce matin. On veut laisser notre foi être informée par la parole de Dieu. C'est ça qui va nous exhorter réellement. Donc on va explorer le thème de l'amitié dans le livre des proverbes. C'est Salomon qui a écrit et rassemblé ces proverbes. Et vous connaissez sa sagesse incroyable qu'il avait reçue de Dieu. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 5 ou 2 Chroniques 1, ou même au début du Proverbe à chapitre 2. Salomon était le fils de David. Il est un de ces personnages bibliques qui jalonnent le chemin vers le fils de David par excellence, c'est-à-dire Jésus. Jésus qui est plus que Salomon, nous dit le Nouveau Testament. Vous pouvez lire ça dans Luc 11 ou Matthieu 12. Alors, Salomon a examiné la nature humaine. Il a fait des observations sur le fonctionnement des relations humaines et de la marche de ce monde. Et du coup, quand il parle, il y a un petit aspect psychologique, si on peut utiliser ce terme un peu moderne. Mais il ne fait pas que de la psychologie, Salomon, quand il nous parle de bon sens et de relations humaines. On doit se rappeler qu'on est en train de lire, même dans les proverbes, un texte qui est inspiré par l'auteur même de la vie. Dieu, qui a tout créé. celui qui a fait les êtres humains, celui qui sait ce qu'il y a au fond du cœur, celui qui est l'inventeur des relations, puisque lui-même est un Dieu trinitaire. Vous rappelez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de toute éternité en relation. Il a des choses à nous dire sur ce que ça veut dire être en relation les uns avec les autres. Et il nous a révélé la sagesse parfaite dans un but précis. Ce but, c'est que son nom soit glorifié dans notre manière à nous de vivre nos amitiés et nos relations. Donc quand on met en pratique la sagesse des proverbes, on a la possibilité de glorifier Dieu dans le domaine de nos amitiés. Et je ne sais pas pour vous, mais rien que cette pensée, c'est stimulant. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement et qui a un impact éternel. Alors, je vous propose deux grandes parties dans ma prédication ce matin. D'abord, on va examiner si on est bien sur le chemin de la sagesse. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas se lancer juste tête baissée dans un style de vie qui ne serait pas fondé sur la parole de Dieu. On ne veut pas se lancer non plus dans un style de vie qui serait fondé que sur des listes de choses à faire ou ne pas faire. D'ailleurs, la Bible, elle ne parle pas comme ça. Comme s'il y aurait des cases à cocher, ça c'est fait, ça c'est à ne pas faire, c'est bon, je m'en suis gardé, tout va bien. Elle cherche à plutôt nous donner justement cette sagesse. Elle cherche à façonner notre cœur, notre vision du monde. Donc on va chercher à puiser à la source de la sagesse et de comprendre ce qu'elle nous dit. Et puis après cette petite réflexion, on va explorer directement le thème de l'amitié dans les proverbes. C'est quoi le portrait d'un bon ami ? Quel conseil nous donne Salomon, inspiré par Dieu, pour nous aider à être nous-mêmes de bons amis envers ceux qui nous entourent ? Vous êtes avec moi ? Alors, regardons. Choisir la sagesse. Écoutez le préambule des proverbes. Proverbes chapitre 1, verset 2. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations. Ils lui donnent à comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente en ayant un comportement juste, équitable et droit. Ils donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Même les sages les consulteront avec profit. Même les intelligents y trouveront des directives. Alors, où que ce soit que vous vous placez ce matin, on est tous concernés, d'accord ? Les proverbes, ils contiennent des maximes, donc des phrases ou des dictons, des pensées qui ont une visée toute pratique. La question globale à laquelle nous aide à répondre le livre des Proverbes, c'est la suivante. Comment réussir sa vie ? Alors, si vous voulez savoir comment réussir ma vie, lisez, inspirez-vous, laissez-vous imbiber par la sagesse toute concrète des Proverbes. Parce que pour réussir sa vie, il faut acquérir la sagesse. Et le commencement de la sagesse, selon les proverbes et selon la Bible tout entière, c'est de connaître Dieu. Proverbes chapitre 1, verset 7. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse, le B.A.B.A. de la sagesse. Il ne s'agit pas de juste savoir qu'il y a un Dieu qui est là-haut, mais c'est reconnaître qu'il est là, qu'il est en train de diriger ce monde et reconnaître son autorité. Et dans Proverbes 8, au verset 13, la sagesse personnifiée se présente et elle nous en dit davantage sur le sens de cette expression, reconnaître l'autorité de Dieu. Et voici ce qu'elle dit. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est détester le mal. La sagesse dit ceci, pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Chapitre 9, verset 10, écoutez encore. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Alors, si nous voulons commencer à être sages, il faut détester le mal. La clé de la sagesse, sa source, c'est de connaître celui qui est saint, pur, sans défaut, Dieu lui-même. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça par nos propres forces ? Alors que on est en train de lire ça, on se dit mais ouf, mon cœur, il est toujours enclin au mal. Alors vous voyez, la sagesse des proverbes se connecte aussi avec l'évangile. Il faut qu'on ait un changement de cœur, un changement radical intérieur. Il n'y a qu'une seule manière de connaître le Dieu saint, c'est de mettre toute sa confiance en celui qui l'a révélé, le plus que Salomon, le roi et le sage parfait, Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous pouvons recevoir toute la sagesse de Dieu. Aucune limite, rien qui est gardé en réserve. Tout est pour nous, par Jésus-Christ. Et vous savez quoi, les amis, c'est une question de vie ou de mort. Pas plus bas que ça. Même pour un sujet pratique comme celui de l'amitié. Craindre Dieu, le respecter, se soumettre à sa sagesse est tellement essentiel que c'est une question de vie ou de mort. Proverbe 8, verset 35. Oui, celui qui me trouve, dit la sagesse, a trouvé la vie. Et le Seigneur l'approuve. Mais celui qui ne me trouve pas se blesse lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. On peut comprendre ça parce que tous nos choix ont des conséquences. Vous avez tous expérimenté déjà, vous croyez que c'était super, j'ai bien réfléchi et bing. Et aussi positivement, je crois que j'ai bien réfléchi, j'y vais, oui, ouf, c'est bon. J'ai construit ma vie sur des choses solides. Tous nos choix ont des conséquences. Rejeter alors la sagesse amène des blessures dans cette vie ou amène la bénédiction. Dans ces blessures, certaines d'entre elles peuvent être lourdes à porter à long terme. Et c'est également le cas pour ce qui concerne l'amitié. Je connais deux ou trois personnes qui ont consommé pas mal de drogues dans leur jeunesse. Et aujourd'hui, bien qu'ils appartiennent au Seigneur et qu'ils vivent une vie dans laquelle ils cherchent à marcher en disciples, ils ont encore des conséquences de leur vie passée. Ils souffrent de maux de tête, ils oublient facilement des choses. Leur corps a été altéré par des prises de drogue. À l'époque, ils avaient de mauvais amis. Peut-être que ce matin, certains sont accros à ces choses-là, ou à l'alcool, et ils luttent pour résister à cette dépendance. Et tout a commencé doucement, sans qu'ils s'aperçoivent, en suivant petit à petit, sortie après sortie, leur fréquentation dans des consommations excessives d'alcool. Peut-être que ce n'est pas une dépendance à ces genres de substances, mais peut-être que votre valeur ou votre sentiment de sécurité dépend de certains amis, mais les choses que eux estiment bonnes sont des choses aux yeux de Dieu, qui sont mauvaises, dangereuses, qui vont vous blesser. Et peut-être que vous êtes en train de lutter à trouver la bonne distance et comment sortir de ces relations. Peut-être c'est avec les biens, parce que vos amis vous poussent à considérer que l'argent c'est quelque chose qu'il faut absolument atteindre. Et si vous n'êtes pas à ce niveau-là, alors vous êtes un rien du tout. Et ça blesse. Et on est à côté de la plaque si on fait ça. Si vous connaissez ce genre de blessure, je vous invite à chercher un ami, un bon ami, un ami sage pour vous aider. Mais je veux aussi vous rappeler, dès ce matin, avant tout, vous inviter à vous confier à Christ, qui est celui qui peut vous restaurer aujourd'hui. Et surtout, vous éviter la conséquence ultime du rejet de la sagesse. Je veux parler de la mort, de la séparation éternelle avec Dieu. Il est celui qui peut vous faire passer d'ennemi de Dieu à ami de Dieu. La réconciliation avec Dieu n'est possible que par lui. La restauration, même quand on a fait dans le passé des mauvais choix, elle est possible par lui aussi. On n'est pas sauvé parce qu'on rentre un dimanche matin ou même depuis des années dans un bâtiment d'église, mais parce qu'on écoute la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on se laisse transformer par elle. Parce qu'on connaît Dieu. Alors il y a un choix. Qui allons-nous écouter? L'appel de la sagesse ou celui de la folie? Reconnaître l'autorité de Dieu, c'est donc la clé, le principe fondamental de la sagesse. Toute forme d'intelligence, de connaissance, de capacité, nos choix doivent être placés sous la coupole de la foi en Dieu pour qu'on puisse jouir véritablement de tous ces cadeaux de Dieu. Et si nous voulons jouir de belles amitiés humaines, il nous faut devenir amis de Dieu en tout premier lieu. L'invitation ce matin pour nous tous est d'écouter la voix de la sagesse dans la foi, dans la confiance, et de nous méfier de l'autre voix séductrice, enjôleuse, qui nous invite à la suivre, la voix de la folie. La folie, c'est autant l'ignorance, le manque de connaissance, que le manque d'expérience, mais aussi que la désobéissance à Dieu. Et comme le livre des Proverbes l'affirme, persévérer dans cette voie, c'est un piège mortel. Si vous vous considérez sage, mais non croyant ce matin, je vous pose la question. Vouloir être sage en ignorant celui qui a fait le monde dans lequel on est en train de vivre, est-ce que ce n'est pas incohérent? Ouais, vouloir chercher comment les choses fonctionnent sans prendre le temps de connaître celui qui a tout créé, est-ce que ce n'est pas incohérent? Vouloir être sage en ignorant le Rédempteur, le Dieu qui sauve par grâce, et confond ainsi la sagesse des humains, n'est-ce pas faire preuve de folie? Ainsi que dit la Bible en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il parle à des disciples, il parle à des chrétiens, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit, et celui qui discute bien dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde, avec sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons. Et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous, nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela. Et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Pour tous ceux d'entre nous ce matin qui ont confié leur vie à Jésus, l'appel aussi c'est de persévérer, à chercher cette sagesse, à connaître Dieu, à marcher selon ses voies. Continuons d'acquérir. C'est un investissement, la sagesse. Ça s'acquiert. Et de rester dans la sagesse de Dieu. Il n'est rien de plus valable au monde que cette sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est comprendre l'Évangile. Et c'est là aussi qu'on va puiser nos forces pour mettre en pratique dans nos vies la sagesse reçue de Dieu pour construire de belles amitiés. Proverbe 22, verset 11. « Celui qui aime la pureté de cœur, la grâce est sur ses lèvres, et le roi est son ami. » Ça, c'est pour nous convaincre que la source de la sagesse, c'est en Dieu, dans l'Évangile, par Jésus. Maintenant, on veut regarder, ok, dans le domaine de l'amitié, comment est-ce que, concrètement, on va mettre ça en œuvre? Je vous invite à écouter quelques conseils des proverbes pour développer de bonnes amitiés. On reconnaît quelqu'un de sage parce qu'il vit, il parle et il agit d'une manière sage, non? Le livre des proverbes n'est pas un livre de recettes ou de commandements, mais un livre à méditer en vue d'un changement dans notre vie pratique. C'est pour ça que les proverbes ne sont pas rangés par catégorie, il n'y a pas le chapitre amitié, et puis on peut dire, ok, ça je fais, ça je fais, ça je fais, ça je fais pas, c'est bon, j'ai compris l'amitié. C'est mélangé avec notre utilisation de la langue, c'est mélangé avec notre utilisation des richesses, des biens que Dieu nous donne, c'est mélangé avec notre respect de l'autorité. Il y a tout est là, et c'est un livre dont on a besoin de méditer régulièrement. Et petit à petit, à force de méditer cette sagesse, elle va produire en nous des changements. La sagesse est un juste savoir avec le comportement qui va avec. C'est une capacité à distinguer entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas, pour ensuite, concrètement, nous engager. La première chose que je vois dans le livre des Proverbes, c'est qu'il nous invite à faire attention à la manière dont on choisit ses amis. C'est basique. Car souvent, nos fréquentations finissent par déteindre sur nous. Et nous aussi, d'une certaine manière, nous pouvons influencer la vie de ceux qui sont nos amis. La grande question, c'est est-ce que ça va être d'une façon positive ou d'une façon négative ? Quelqu'un a dit un jour, tes amis sont comme des boutons d'ascenseur. Soit ils te font monter, soit ils te font descendre. Vous y penserez la prochaine fois que vous êtes dans l'ascenseur. Écoutons les conseils de la sagesse. Proverbe 12, verset 26. Le juste guide son compagnon dans la bonne direction. La conduite des méchants les égare. Proverbe 13, 20. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui fréquente les gens stupides s'en trouve mal. Il y a à la fois un choix positif et un avertissement qui nous encourage à fuir les mauvaises fréquentations. Parce que, attention, certains soi-disant amis peuvent se révéler néfastes pour nous. Proverbe 22, versets 24 et 25. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. Proverbe 21:10. De tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal et il n'épargne même pas son ami. Il y a différentes formes de malveillance, parfois bien subtile. Je crois que je vous fais confiance, on se fait confiance, on serait capable d'éviter d'être ami avec un gangster notoire, des gens vraiment où c'est évident qu'ils vont nous emmener là où on ne veut pas. Mais parfois la vie c'est un peu plus compliqué que ça, et des fois c'est possible de dépendre d'une amitié vicieuse avec quelqu'un. Par des paroles amères, manipulatrices, cette personne peut vous égratigner sans cesse et vous rendre amer à votre tour. On l'a lu, même les personnes malveillantes n'épargnent même pas leurs amis. Donc il faut prendre notre distance avec de telles relations si on est dans ce cas-là. Proverbe 13, 10, Proverbe 15, 18, 16, 28, 16, 29, 23. Plusieurs proverbes encore nous alertent sur cette situation-là. Attention à la façon dont on choisit nos amis. Un ami, deuxième idée, c'est rester discret. Proverbe 20, verset 19. Celui qui répand des médisances trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui parlent trop. Positivement, ça signifie que un ami est quelqu'un sur lequel on peut compter pour garder un secret. On peut se confier à un ami parce qu'on sait qu'il va rester discret sur ce qui aura été partagé, sans le répondre sur Facebook ou Twitter dans la seconde qui suit. L'amitié se vit dans un cadre de confiance réciproque. Et ce qui aura été partagé entre deux amis ne servira pas, même si c'est éventuellement partagé avec une personne tierce, ça ne servira jamais à détruire l'autre ou le mettre dans une situation difficile. Un bon ami, ce n'est pas quelqu'un qui va répandre des médisances, dire du mal, bien sûr, ou simplement parler de la situation de quelqu'un sans que cette personne soit là, sans que les personnes concernées soient présentes. Si nous voulons être de bons amis, nous devons aussi prendre en compte toutes les exhortations et les avertissements des proverbes et de l'apôtre Jacques en ce qui concerne l'usage que nous faisons de nos paroles. La sagesse nous invite à choisir des amis, mais pas pour vivre une vie par procuration, pour rêver être quelqu'un au travers d'une relation. Il n'y a pas de fusion dans l'amitié. Et de nouveau, surtout pas avec les méchants. Proverbe 24, verset 1. N'aie pas envie d'imiter les méchants, ni de les fréquenter. Ils ne pensent qu'à agir avec violence. Leurs lèvres causent du mal. Dans cette même idée, les proverbes nous avertissent de ne pas nous laisser aveugler par les richesses. On est un peu dans cette... D'accord, vous êtes avec moi. Comment on choisit des amis? On a remarqué que ça peut être positif, négatif. Okay, on choisit des amis qui savent rester discrets. On choisit des amis sans se laisser aveugler par les richesses. Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est détesté, même par ses compagnons, tandis que le riche a de nombreux amis. Plus ici, attention, tous les proverbes ne sont pas des commandements. Donc il ne faut pas lire ce proverbe qui vient de dire, donc je vais être riche, comme ça j'aurai des amis. Non, ça fait juste, ici ça pose un constat. Quand on est riche, tiens, c'est bizarre, on attire plus facilement les amis. Quand on est pauvre, on est vite délaissé. Mais proverbe 19, verset 4 dit, « Un homme riche a sans cesse de nouveaux amis. » Un pauvre risque de perdre le seul qui lui reste. Proverbe 19, 6 et 7, un peu plus loin. Beaucoup de gens flattent en face l'homme important. Et tout le monde se prend d'amitié pour kiffer des cadeaux. Le pauvre est détesté par ses propres frères. À plus forte raison, ses amis l'abandonnent-ils? Lorsqu'ils voudraient leur parler, ils sont plus là. Ce n'est pas des commandements ici, c'est plutôt Salomon, avec sa sagesse qui nous pose la question. Sur quelle base est-ce qu'on construit nos amitiés? Est-ce qu'on sait bien pourquoi certains nous considèrent comme leurs amis? Et est-ce qu'on sait bien pourquoi nous considérons telle ou telle personne comme nos amis? Et sur quelle base? Nos amitiés sont-elles basées sur une relation intéressée ou sur la loyauté envers la personne même de nos amis? Et si parmi nous, quelqu'un se trouve en danger de convoiter, de jalouser ou de vivre la richesse au travers d'une amitié avec quelqu'un de riche, voilà un petit rappel des proverbes. Chapitre 22, verset 2, « Le riche et le pauvre se retrouvent, c'est le Seigneur qui les fait tous deux. » Finalement, au-dessus, c'est Dieu qui règne. Jacques, le frère du Seigneur, nous invite de même dans son épître au chapitre 2 à ne pas montrer de partialité entre riches et pauvres. Il nous rappelle la loi royale qui est, selon les Écritures, d'aimer comme Christ nous a aimés, sans favoritisme. Et alors c'est facile de dire, ok, moi j'ai pas spécialement des amis riches ou pas riches en considérant les biens matériels, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la relation, que vous avez besoin pour vous-même? Dans un sens, vous allez aimer ceux qui disent qu'ils vous aiment. Vous voyez, ce n'est pas matériel, ce n'est pas des pièces sonnantes et trébuchantes ou des billets, mais c'est quand même ce genre d'amitié qui est basé sur du favoritisme, qui est basé sur qu'est-ce que moi je récupère de cette relation, plutôt que comment est-ce qu'on peut vivre ensemble devant Dieu. Sachons donc choisir nos amis. On dispose d'une certaine liberté. La Bible ne dit pas noir sur blanc, ben Marc Etienne, tu seras l'ami de Michel. Si ça avait été écrit noir sur blanc dans la Bible et que moi j'étais en train de désobéir à ça, ce serait grave, n'est-ce pas? On dispose de liberté pour choisir nos amis. Si on dispose de liberté, ça veut dire qu'on est aussi responsable devant Dieu de nos choix. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de sagesse pour exercer cette liberté et cette responsabilité. Alors faisons-le et ne nous privons pas de construire des amitiés solides. Parce que, au fait, l'amitié, c'est nécessaire pour tous. Je ne sais pas quelle était la plus grande période de solitude que vous avez vécue. Il y a des personnes, ce matin, qui se sentent seules, et ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? C'est difficile. Nous sommes des êtres relationnels. On a été créés pour être en relation, pour être en contact avec Dieu et les uns avec les autres. Personne ne veut vivre seul. Et parfois, c'est un des drames silencieux de notre société actuelle, ici en Europe en tout cas. Des personnes âgées meurent dans leur appartement sans que personne s'en soucie. Des personnes vivent cloisonnées chez elles, scotchées à leurs écrans, sous des identités d'emprunt. Elles sillonnent des mondes virtuels, mais en réalité, leur vie, c'est la solitude. C'est un paradoxe étrange, mais qui met en avant le besoin relationnel de tous et en même temps la difficulté aujourd'hui de vivre en vie réelle des relations apaisées, constructives, satisfaisantes avec ceux qui nous entourent. C'est pas facile, l'amitié, et pourtant c'est nécessaire. Il se peut que certaines souffrances ou certaines joies échappent à nos amis, même les plus proches. Proverbe 14:10 dit ceci: chacun est seul dans ses chagrins et ses joies. Personne d'autre ne peut les partager. Et si c'est ça que tu ressens tout spécialement ce matin, je voudrais te rassurer et te dire: mais si aucun de tes amis n'a vu ça, ça n'échappe pas à Dieu. Il parcourt de son regard le monde, il entend ceux qui crient vers lui. Ça n'échappe pas à Jésus. Comme on l'a lu récemment dans la lettre aux Hébreux, qui a souffert et qui a connu les luttes de tout être humain, qui dit « Approchons, approchez-vous du trône de grâce pour être secouru. » L'avoir pour ami, Jésus, c'est pouvoir partager avec lui tout ce que nous vivons. Lui nous connaît même mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas une bonne chose de nous rappeler ça ce matin? Et nous, nous voulons apprendre de Jésus pour être de ceux qui réellement, concrètement, se tiennent aux côtés de ceux et celles qui ont besoin d'être en relation. Si des fois il y a des choses qui échappent à nos amis, c'est vrai aussi l'inverse, qu'il y a des choses que nos amis peuvent connaître et voir et discerner en nous mieux que nous-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on a besoin des amis. Des amis peuvent nous offrir un recul salutaire dans de nombreuses occasions. Le Proverbe 19, verset 2 dit « Il n'est pas bon de se méconnaître. À se précipiter, on manque le but. » Et Proverbe 15, 22 nous dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Grâce à de nombreux conseillers, ils se réalisent. » Est-ce que vous avez déjà connu cette expérience, vous êtes tracassé par quelque chose. Et voilà que un de vos amis le remarque. Parce qu'un ami est attentif à ses amis. Et il vous demande: qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tracassé, t'as pas l'air dans ton assiette en ce moment. Et vous lui exposez le problème auquel vous faites face. Et après une petite heure de discussion, vous repartez tout léger, avec des idées beaucoup plus claires, avec un plan, qu'est-ce que je fais pour la suite. Ça vous est déjà arrivé? Ben, pas souvent, on dirait. Bon, on va prier que vraiment ça nous arrive beaucoup plus, parce que ça fait du bien. C'est important, c'est bon, n'est-ce pas, quand ça nous arrive. Salomon avait déjà observé ça dans son temps. Les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Les fontaines de Vaucluse, là, on ne sait pas d'où elle arrive cette eau. Et une personne intelligente sait les faire apparaître. Ça fait du bien quand on rencontre une telle personne. Un ami, c'est écouter et parler de manière appropriée, même si c'est pour nous avertir ou nous reprendre parfois. Proverbe 27, verset 6. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Écoutons nos amis quand ils cherchent avec bienveillance à nous rendre attentifs au piège de la folie et du péché qui nous guettent. Oui, on a bien besoin d'être en relation et en particulier de pouvoir compter sur des amis. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, dit Proverbe 27,9. Et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Il y a encore de nombreux bénéfices dans l'amitié. Pour terminer avec ça, Proverbe 17,17. L'ami aime en tout temps. Le frère est né pour la détresse. Un ami est secourable, même parfois plus qu'un frère. Un frère, on ne le choisit pas. Quand il exprime sa solidarité dans la détresse, c'est une sorte d'obligation morale, des liens du sang qui unissent. C'était surtout le cas, d'ailleurs, dans la société orientale, à l'époque de Salomon. C'est un peu perdu chez nous, et même les liens de famille se distendent de plus en plus. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui pour beaucoup de nos frères et sœurs africains ou du Moyen-Orient. Il n'est pas question de refuser d'aider un frère quand il est dans la détresse. Mais l'ami aime dans les bons moments comme dans ceux les plus pénibles. Et il le fait par choix, par loyauté, librement, par affection. C'est le cas pour les amis authentiques. Proverbe 18,24, il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. L'entraide, c'est important dans l'amitié. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que ça commence une amitié. L'amitié, elle se nourrit de services rendus autant que d'un sentiment d'attirance réciproque. Et l'apôtre Paul avait de nombreux amis qui ont manifesté concrètement leur attachement à la personne de Paul. Ils partageaient les mêmes valeurs, ils ont prouvé leur loyauté. Et si vous voulez une preuve de ça, lisez Romains chapitre 16 ou la fin de Colossiens. La longue liste des gens que Paul salue, il dit, voilà, lui, il a fait ça pour nous. Je me rappelle d'un tel qui a été bon à notre égard. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est actif pour le Seigneur? C'est magnifique. Et nous, cette semaine, comment pourrions-nous manifester concrètement notre affection à nos amis? C'est déjà vécu dans cette église et juste pour dire un mot de remerciement pour ceux qui ont préparé des repas toutes ces dernières semaines pour nous. Voilà, ça c'est l'amitié vécue concrètement. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des besoins? Est-ce qu'on va être attentif à ceux qui sont là et qui ont besoin d'être entourés? Voilà un dernier conseil pratique tiré de la sagesse des Proverbes. L'amitié est une relation basée sur la loyauté, un choix réciproque dans un sens, mais la sagesse nous encourage à entretenir les relations. Proverbe 27,10, n'abandonne pas tes amis, ni les amis de ton père. Si tu es en difficulté, ne va pas chez ton frère, car un voisin proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain. Si un frère devient lointain, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce ne soit pas loin, mais pour vivre des choses ensemble? Attention, entretenir une amitié, ça ne signifie pas squatter la vie d'une autre personne. Il y a parfois des amitiés toxiques qui étouffent plus qu'elles n'amènent à l'épanouissement. Alors, voici une recommandation sensée de la sagesse, Proverbe 25, verset 16. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Sinon, tu en seras dégoûté au point de le vomir. Ne rends pas trop souvent visite à ton voisin, sinon il sera lassé de toi au point de te haïr. Alors, il y a juste une question de mesure. C'est pas pour dire, alors j'y vais jamais, ni j'y vais tout le temps. Et là, de nouveau, on a besoin de la sagesse pour savoir quelle est la bonne mesure, quel est le bon rythme, quelle est la bonne attitude. C'est une question de rythme et de timing aussi. Proverbe 27,14. Si quelqu'un salue bruyamment son voisin au point du jour, au lever du jour, sa salutation sera considérée comme une insulte. Donc c'est vrai, débarquer à 5h du matin chez quelqu'un, peut-être pas la bonne chose à faire. Sauf si le besoin est là à ce moment-là, n'est-ce pas? finalement, trouver des bons amis, c'est pas quelque chose de facile. Je sais pas comment vous vous situez. On a besoin, moi j'ai besoin de sagesse, de prier Dieu dans ce domaine. Et le premier appel de la sagesse ce matin, pour ceux qui veulent l'entendre, c'est avant tout d'être réconcilié avec Dieu. Proverbe 20, verset 9. Quelqu'un peut-il dire, j'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché? C'est seulement par Jésus-Christ que ça est possible. Renoncez à la voix de la folie, entendez l'appel de la sagesse, reconnaissez l'autorité de Dieu pour découvrir son amitié. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens se proclament fidèles. Un homme sûr, qui le trouvera? Pas si facile l'amitié. Mais un homme a été fidèle jusqu'au bout, à un point où aucun d'entre nous n'est capable d'aller. Vous savez de qui je veux parler? Jésus-Christ. Si nous voulons aussi avoir cette même persistance et cette même loyauté, on veut chercher à ressembler à notre roi juste et sage. On veut imiter Christ, on veut imiter ceux qui imitent Christ. On cherche l'amitié de ceux qui marchent dans les pas de Christ. Et on va progresser pour devenir des hommes, des femmes fidèles, des hommes, des femmes sûrs. Proverbe 19, 22. Ce qu'on désire d'un homme, c'est une amitié fidèle. Aussi, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Nous désirons tous vivre de belles et grandes amitiés. Ça fait partie des besoins que nous avons d'avoir des relations encourageantes, satisfaisantes, authentiques, stimulantes, vraies, avec d'autres personnes autour de nous. Et c'est aussi de notre ressort d'offrir une telle amitié à ceux qui nous entourent, en étant ouverts à tous. Sachons donc, dans nos amitiés avec ceux qui sont en dehors de l'Église, aussi refléter la fidélité, la loyauté, la générosité, l'attention, la vérité de Dieu. Vous voulez prier à quoi? Merci notre Dieu pour ton amour manifesté concrètement, réellement à la croix. Merci que nous pouvons être tes amis. Non pas par notre choix à nous, mais parce que toi, tu nous as choisis pour que nous t'appartenions, que nous puissions nous tenir devant toi. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta loyauté, ta persévérance avec nous, ta patience. Merci pour tes encouragements et aussi tes reproches. Merci parce que tu nous gardes dans la voie de la sagesse, de reconnaître ton autorité, de vivre pour toi, pour te glorifier. Tu vois, ce matin, on a réfléchi, selon ta parole, à l'amitié. Nous prions concrètement que tu nous aides à progresser dans nos amitiés, dans nos relations. Garde-nous de partir de travers, de suivre de mauvaises amitiés. Et aide-nous à construire et bâtir des amitiés sûres et solides avec tous ceux que tu nous donnes à rencontrer. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.